On fait les œufs.
On fait des gâteaux à la vanille.
Faut avoir un petit ami hein, mais, en bon, cuisine, toujours.
Mais, oui, toujours.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants.
Cuisiner avec ses enfants, ça fait partie de l'apprentissage. C'est un vrai plaisir.
Laurent Barriot.
Mais oui, cuisinons avec les enfants. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Installez-vous. Vous êtes chez vous, du marché à la cuisine, en passant par les arrières-cuisines de notre alimentation. C'est ici que ça se passe jusqu'à midi et demi. Et si on faisait pousser des champignons à la maison, tiens? Eh bien, c'est très facile, vous allez entendre. Ici, on aime mélanger l'histoire et la table. Eh bien, c'est ce que nous allons faire en fêtant les 400 ans de la naissance de Molière. Et déjà à l'époque, on mangeait moins, mais mieux, c'est ce qu'on va vous expliquer. Mes bons vivants sont en place. Elle n'est pas avare de mots quand il s'agit de commenter la cuisine des chefs. Ni précieuse, ni ridicule, c'est Charlotte Langrand du Journal du Dimanche.
Bien.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Laurent.
Comment ça va?
Ça va très bien, surtout quand je ne suis pas précieuse ni ridicule.
Mais
tout
comment
va bien.
Il n'est pas du genre, je confirme, il n'est pas du genre à jouer le cuisinier imaginaire et encore moins les misanthropes. C'est notre bistronome en chef, Yves Candebordes. Bonjour Yves.
Bonjour Laurent, bonjour Charlotte.
Bonjour Yves.
Heureux de vous retrouver à cette table. Et juste avant midi, Miss France sera des nôtres. Diane Ler aime les plaisirs de la table. Eh bien, nous partagerons un plat de Théline. Ah oui, ça va être bien ça. Petit rituel du samedi, je sais que vous y êtes attaché à la maison ou en écoutant cette émission en voiture. Quel est votre goût de la semaine? Je vous pose la question, une recette, une adresse, un produit de saison. Charlotte Langrand.
Eh bien moi, pour une fois, permettez-moi de faire un goût de la semaine d'anticipation, parce qu'il y a vraiment un événement qui m'intrigue et dont pour lequel je salive déjà. C'est un banquet romain qui va se tenir la semaine prochaine, le 7 mai à Nîmes, dans les jardins de la Fontaine autour du Nymphée. Les chefs Emmanuel Perraudin et Nicolas Fontaine, sous le parrainage de Pierre Gagnère, vont imaginer un banquet originel de la création de la civitas nimoise par Octave Auguste au 1er siècle avant Jésus-Christ.
Ça veut dire qu'on est en toge, allongé, on mange avec des grappes de raisin comme ça, comme
Astérix. Peut-être, j'espère, mais la trame en fait c'est de essayer de retrouver la profondeur des goûts de Rome à cette époque pour faire un voyage vraiment gustatif là pour le coup dans le temps, en relisant Apicius et Pline l'Ancien. Et vous pouvez y participer. C'est à 20h30 le 7 mai. Et vous pouvez vous inscrire sur info@arene-nimes.com pour essayer de vous replonger dans ce qu'on mangeait à cette époque-là.
Il y aura du garum.
J'espère. Ah bah j'imagine.
Le garum, c'est l'ancêtre du gnocchmam. Là, c'est ces poissons fermentés là, qu'on retrouve aujourd'hui. Hein.
Oui, qu'on voit apparaître de plus en plus.
Votre goût de la semaine, Yves.
Ouais, moi, je vais rester dans le moment. Voilà. C'est le moment entre deux saisons pratiquement. Et j'adore utiliser les fins de saison avec les débuts de saison. Et je vais cuisiner. J'ai déjà cuisiné, pour vous dire la vérité, de la joue de veau. Voilà, j'ai cuisiné la joue de veau comme un pot-au-feu. Ouais. Exactement pareil. Je vais juste lier avec un peu de crème à la fin et un petit jaune d'œuf pour que ça ressemble un peu à une blanquette. Et je vais l'accompagner avec des petits pois crus, des amandes et des zestes de citron.
Oh, c'est beau. Voilà. Ça, c'est le printemps.
C'est le
printemps. Il y a un petit côté acidulé aussi que j'aime bien, moi, dans
votre
histoire.
Tout à fait. Voilà, on va récupérer un peu ces arômes de d'hiver pour les amener sur le printemps.
Eh oui.
De la fraîcheur. Un joli plat de partage.
Et vous, Laurent?
Mon goût de la semaine, il est cousin du vôtre, Yves. Une fricassée d'asperges vertes et des petits pois. Des asperges taillées en morceaux, revenues dans un petit peu d'huile d'olive. Des petits pois juste mis par-dessus. Je couvre, ils cuisent comme ça à l'étuvée. Ils sont presque encore croquants. Et je casse un œuf mollet. Et cette recette, je l'ai faite à la télévision avec quelqu'un qui vous est cher, Yves Candebordes. C'est Christian Constant.
Ça m'étonne pas.
Qui m'a appris à faire cette recette.
Je peux vous assurer.
Et je la fais tout le temps.
Il est amoureux des œufs mollets.
C'est ça. Voilà.
Et c'est vrai que c'est bon. C'est très, très bon, un œuf mollet.
Et on le salue du côté de Biarritz, je sais, qui nous écoute régulièrement le samedi. Ça y est, c'est l'heure d'aller au marché. Direction le marché paysan de Tourette, dans le Var. Alors, c'est un magasin local. Qu'est-ce qui vous plaît, tiens, dans ce magasin et qu'est-ce que vous achetez? Vos réponses au micro de Frédéric Michel, le correspondant d'Europe 1 dans la région.
Courgettes, fraises, salades, truites, saucissons de serre et des carottes. C'est sympathique et puis il faut faire travailler les petits paysans. C'est bon et c'est frais.
Ces producteurs, c'est mieux que les supermarchés. C'est meilleur.
Le goût n'est pas le même.
Ici, on retrouve le goût des fraises de nos grands-mères. Quoi. C'est pas forcément plus cher en plus.
Je calcule pas, ça fait peut-être 10-15% de plus.
On sait d'où ça vient, on regarde les étiquettes. Alors, j'ai des champignons de Paris, des cébettes, du poireau, des pommes et des asperges. Alors là, je fais une petite salade avec les champignons de Paris. Les asperges, je vais les faire bouillir, après je vais les faire venir avec un petit beurre fondu. C'est le printemps, dans l'assiette.
Surtout, il y a un petit boucher qui vient des montagnes de Provence et qui a un agneau exceptionnel. Et du poisson qui vient du lac de Sainte-Croix, surtout des truites. qu'ils préparent sous vide et qui sont délicieuses.
Alors, 26 rôtis, s'il vous plaît. Allez, c'est parfait. Bonne journée, bonne semaine.
Bonne journée et bon week-end. Et on n'oublie pas sa monnaie. Merci beaucoup, messieurs, dames, de répondre au micro d'Europe 1 qui se balade sur tous les marchés de France. Hein. On est la seule émission culinaire, hein, comme ça, à ouvrir l'émission avec un joli micro-trottoir, comme on dit. Une enquête d'opinion, comme disait mon camarade Jean-Pierre Pernaut sur les marchés.
Mais de toute façon, la cuisine commence par le marché. Donc, c'est normal qu'on commence par un marché.
Nous sommes bien d'accord.
Et là, on est sûr d'avoir des choses de saison, hein, si on va voir les producteurs directement.
Ce qui est important dans ces marchés paysans, c'est qu'enfin, c'est des lieux où on est sûr de trouver que des paysans. Malheureusement, dans les marchés classiques, il y a toujours des revendeurs qui viennent s'y glisser. C'est toujours délicat à faire la différence. Là, au moins, on a confiance, on est face aux producteurs.
Mais vous n'avez pas vu ceux qui mettent une chemise à carreaux avec un béret, puis qui sortent des palettes de plastique avec...
Laurent, le pire pour moi, c'est quand ils mettent l'accent.
Oui, c'est ça. Ah, oui,
ça
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Savez-vous planter les choux ? Oh que oui ! Et les champignons alors ? Eh bien, figurez-vous qu'on peut les faire pousser à la maison. On va voir comment avant de les passer à la casserole. Elle a étudié le sujet et même publié un livre justement. C'est Caroline Munoz, spécialiste jardinage, qui est avec nous. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Merci
bonjour
d'être avec nous. Nos auditeurs vous connaissent peut-être parce qu'on peut vous voir dans l'émission William à midi sur C8.
Exactement, oui. Le mardi, le jeudi et le vendredi.
Avec notre camarade William Lémergie.
Voilà.
Qu'on retrouve d'ailleurs tous les samedis de 15h à 16h ici.
Exactement.
Sur Europe 1.
Hein. Mm-hmm.
La cueillette des champignons, c'est un souvenir d'enfance pour vous ?
Oui, c'est un souvenir d'enfance à la base. J'adorais me balader avec ma grand-mère, particulièrement dans la forêt. On allait à la cueillette aux champignons. Puis il y avait toujours le secret, tu sais, dans cet endroit, mais il ne faut pas le dire aux autres.
Hein, ah bah
parce
non.
que c'est un secret, c'est là que poussent les pleurotes ou quoi que ce soit. Et puis du coup, bah voilà, moi j'ai toujours gardé cette idée des champignons et m'est venue l'idée d'essayer de les faire pousser chez moi.
Lesquels vous ramassiez à l'époque ?
Les pleurotes, c'était les pleurotes hein, qu'on ramassait avec ma grand-mère principalement. Quoi.
D'accord. Pas ouais. de cèpe, pas de morilles, pas de trompette
si,
de la mort.
S'il y avait des cèpes, il y avait des cèpes. Pas de trompette de la mort. Je me souviens qu'on cherchait partout les trompettes de la mort, on les avait pas. Mais les cèpes, oui aussi.
Alors, faites pousser vos champignons, c'est votre livre paru chez Rustica Édition. Mmh. Zéro difficulté, zéro déchet, zéro dépense. C'est tout ce qu'on
c'est
aime,
l'idéal,
ça.
Hein, c'est l'idéal.
C'est l'idéal. Alors, comment fait-on pousser des champignons à la maison, Caroline Munoz ?
En fait, c'est très simple. Hein. Enfin, c'est très simple. Ça paraît compliqué au départ et pourtant, ça ne l'est pas du tout. Il faut avoir du mycélium. Alors, le mycélium, c'est quoi ? C'est la base. En fait, ce sont les racines qui permettent de faire pousser les champignons. Ça, on peut le commander sur Internet. On le trouve très facilement. Ensuite, bah, vous prenez une petite cagette. Vous mettez votre mycélium que vous mélangez avec votre terre. Il faut recréer le climat pour faire pousser les champignons. C'est-à-dire, bah, quoi ? C'est de l'humidité. Parce que les champignons, ça pousse au pied des arbres dans un milieu plutôt humide.
Il y a un peu de chaleur. Ils aiment bien les alternances.
Ouais,
en fait,
alors,
aussi.
Il faut une température, effectivement, autour de 18 degrés. Pas moins, pas plus. Et puis, surtout, il faut un peu d'ombre. Donc, en fait, moi, j'ai eu l'idée de prendre des sacs poubelles, vous savez, un peu opaques.
Oui, les noirs.
Donc, voilà, les noirs. Je mets ma cagette à l'intérieur, je recrée comme ça le milieu un peu favorable et l'humidité et ça pousse bah, comme des petits pains.
Mais on peut faire tous les champignons ?
Non, on ne peut pas faire tous les champignons, effectivement.
Si on peut faire, la truffe,
trop beau. Si on peut faire de la truffe, moi je veux bien faire.
Ah oui, non. Non, non, on ne peut pas tout faire. Alors,
lesquels
le plus
on
facile,
peut faire
alors le plus facile, c'est les champignons de Paris, bien sûr, c'est le plus connu et le plus simple. Les pleurotes, on peut les faire. Après, on peut tenter les shiitake, etc. Mais c'est un peu plus difficile, je vous l'avoue.
Les cèpes,
non, on ne peut pas.
Mais on avait parlé ici déjà, vous savez, il y a une société à côté de Paris, à Rungis, qui récupère le marc de café des bistrots parisiens et qui fait pousser des champignons, des pleurotes et des shiitakes
dessus. C'est Alexandre et Viviane Zida, ils étaient d'abord à Paris dans le 16e, c'était dans des anciens cachots, ils faisaient pousser des pleurotes. Maintenant, ils sont aussi vers Montreuil. Et je sais qu'Adeline Grattard et Nathan Hello, ils s'en servent, ils les cuisinent dans leur restaurant. Ouais. C'est vrais champignons de Paris.
Mais alors, ce qui veut dire, en fin de compte, c'est que le champignon n'a pas besoin de terroir.
Non.
Certains, pas tous.
Pas tous.
Parce qu'on le sait que les cèpes repoussent au même endroit.
Voilà,
les morilles reviennent régulièrement.
En fait,
aussi.
Il faut savoir que le mycélium, en fait, ces espèces de racines qui sont sous terre, elles peuvent rester mais des milliers d'années. On a retrouvé des mycéliums qui avaient près de 300 ans. Donc vraiment, ça reste sous terre. C'est pour ça qu'on se balade et qu'on se dit tiens, à ce moment-là, je sais qu'à cet endroit, ça pousse et ça revient chaque année pendant des années et des années.
Et vous m'aviez parlé d'un restaurant à Lyon, Yves Candebord, que vous avez vu il n'y a pas longtemps, où on faisait pousser carrément des champignons dans le restaurant.
Quand vous rentrez dans le restaurant, il y avait carrément une mezzaline et c'était vitré et c'était une culture de champignons. C'est vrai que c'était super intéressant parce que bon, déjà c'était éducatif. Moi j'étais allé avec mes enfants donc ils nous avaient expliqué exactement ce qu'on vient de nous expliquer. Et surtout c'est aussi très ludique et pour un consommateur c'est toujours très agréable de voir quelqu'un qui ramasse et qui cuisine instantanément, ça met un appétit. Je dirais que c'est plaisant à regarder.
C'est vrai que c'est plaisant à regarder. En plus, on peut les faire pousser effectivement sur du marc de café, sur de la paille. On n'a pas besoin simplement d'avoir un support de terre. On peut vraiment s'amuser en sac, en cagette, n'importe comment. Et c'est vraiment très ludique et très pédagogique pour les gens qui ont des enfants. C'est fabuleux de leur expliquer comment ça pousse, la nature, de les voir pousser. En plus, c'est très impressionnant. Donc non, c'est très chouette.
C'est facile. Alors, ce qui est bien ensuite, c'est qu'on peut les conserver. Il y a plein de façons de conserver, vous le dites, dans votre livre. On peut faire des pickles, on en parle souvent ici avec Yves, dans du vinaigre. Et vous avez d'autres solutions aussi, Caroline
Mignose. Oui, on peut aussi les faire sécher. Alors ça, en plus, là, il commence à faire beau. On prend les champignons. En plus, il faut savoir que dans une cagette, vous allez avoir plusieurs récoltes, jusqu'à 5 récoltes. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, vous avez de quoi faire. Donc vous pouvez vraiment les faire sécher au soleil, les couper en petites rondelles et puis après, vous les concassez et vous les rajoutez dans vos salades de printemps. Ben, ça, c'est super.
Champignons de Paris, ça, c'est tout simple. On n'y pense jamais, mais cru, c'est délicieux en carpaccio en ce moment, avec un filet d'huile d'olive, du citron, des copeaux de parmesan et du cresson. C'est encore la saison du cresson. C'est un joli mariage. Et il a du goût, le champignon de Paris.
Laurent, j'allais vous dire, moi je vais vous avouer, je pense que c'est l'un des champignons qui a peut-être le plus de goût et plus de pertinence gastronomique. Alors moi, j'ai une recette que j'adore faire, mais qui est très simple. Je reçois mes champignons, alors quels qu'ils soient. Ça peut être des champignons de Paris, ça peut être des pleureaux, des shiitake. Je les humidifie. Je les mouille quand même. Je les mouille avec beaucoup d'eau.
Ah oui, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Parce qu'il y a déjà de l'eau de végétation dans le champignon.
Il y a déjà de l'eau de végétation. Et je vais les laisser comme ça mariner dans bien humide pendant pratiquement 12 heures. Après, je les poêle avec très, très légèrement d'huile d'olive. Je les mets à égoutter. Et là, j'ai encore vraiment beaucoup d'eau qui va couler. C'est l'eau de végétation plus la seconde eau du champignon, j'ai envie de vous dire. Et j'ai un bouillon. J'ai déjà un bouillon qui est pratiquement prêt. Je vais me cuire une petite pâte, un petit spaghetti. Ou alors une petite de pâte chinoise que je vais mettre dedans. Je remets mes champignons, une noisette torréfiée, et ça me fait de suite un joli bouillon, un peu à l'esprit asiatique, très simple. Et qu'est-ce que c'est bon,
génial.
Que c'est
vous ne seriez pas chef cuisinier, Yves Condebord?
Mais oui, dites-moi.
Au témoin d'un doute. Il y a une belle recette de shiitake avec une sauce teriyaki dans votre livre, Caroline Mignose, que j'ai vu à la fin. Comment vous aimez déguster les champignons, vous?
Moi, j'avoue que j'aime bien dès que c'est la poêlée avec de l'ail, du persil, le truc très sympa. J'adore.
Basique,
c'est vraiment le côté sympa pour agrémenter tous les plats, que ce soit les viandes, même les poissons, pourquoi pas.
En ce moment, on peut trouver des morilles encore. En train de penser à nos auditeurs qui se disent tiens, je voudrais aller aux champignons ce week-end.
C'est pas que le mois d'octobre, c'est pas que l'automne, les champignons, il y a les champignons de printemps aussi, et les gens y pensent un peu moins. On pense qu'il y a que les morilles, mais il y en a d'autres qui vont arriver quand même un petit peu là, dans les mois qui viennent.
Ça dépend aussi énormément des régions. Il y a vraiment des différences entre les régions. On arrive à trouver les champignons un peu toute l'année selon la région où on se trouve.
Et à la maison, grâce à vous, Caroline Mignose, faites pousser vos champignons chez Rustica Édition. Merci d'être venu nous en parler.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Jean-Baptiste Poquelin est né il y a 400 ans, connu sous le nom de Molière. Il a régalé ses contemporains avec des pièces toujours actuelles, mais il a aussi été témoin de la table du Roi Soleil, le Vénard. Alors Molière a nourri son œuvre de références culinaires. Eh bien, parlons-en avec nos invités. Valérie Duclos. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Bonjour. Vous venez de publier à la table de Molière aux éditions des Falaises. Vous êtes auteur et journaliste culinaire. Et Jérôme Pouli, sociétaire de la Comédie Française. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Bonjour. Merci d'être là. Alors, vous jouez l'avare depuis la semaine dernière à la Comédie Française. Vous êtes en tournée avec une autre pièce, on en parlera tout à l'heure aussi. Et vous allez nous interpréter, pour nos auditeurs, des scènes, des pièces de Molière dans lesquelles il est un petit peu question de ripaille parfois.
Ah ouais, d'accord, comme ça, à chaud.
À chaud.
D'accord.
Ça vous fait pas peur, vous le sociétaire. Tiens, Valérie Duclos, quelle pièce de Molière parle le plus de cuisine, selon vous?
L'avare, où il y a pas mal d'échanges parce qu'il cherche à organiser un grand banquier avec beaucoup d'économie, et puis aussi le bourgeois gentilhomme, les deux.
C'est vrai. Alors vous avez remarqué dans votre livre à la table de Molière qu'il y a des extraits de pièces où on parle cuisine et ingrédients. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué justement dans ces pièces-là?
L'évocation des banquiers où on imagine bien les grandes tables avec plein de mets. Parce que vraiment, à l'époque, il y avait la cuisine des paysans et puis la cuisine du Roi Soleil.
Il y avait un sens de l'économie aussi. On parle de l'avare, mais il était question de ça, de faire aussi des économies pour acheter les ingrédients.
Maintenant, on revient. Molière reste extrêmement contemporain parce qu'il souhaite par ses écrits et surtout dans la VAR, bambocher sans trop dépenser. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on fait par le zéro déchet, etc.
Mais oui, la bamboche, c'est pas terminé, hein, Jérôme Pouli, vous êtes d'accord ?
Je suis complètement d'accord. D'autant qu'il dit qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger.
Ah donc oui, ça, exactement. Déjà, oui, ça vient de lui, on va en reparler justement. Vous êtes venu avec un texte rare et appétissant de la VAR qu'on avait oublié. Vous pouvez nous faire un petit extrait ?
Oui, d'accord. Hein, okay.
Jérôme Pouli, pour vous, pour les auditeurs d'Europe 1.
Donc, effectivement, je replace le contexte. Oui, oui. C'est dans la VAR, où effectivement, Harpagon demande à son cocher cuisinier, Maître Jacques, de préparer un repas. Évidemment, l'autre lui demande de l'argent. Donc, de l'argent, toujours de l'argent, parler d'argent, etc. Et donc, effectivement, seul dans la Pléiade, effectivement, il y a ce que Maître Jacques va proposer comme repas. Alors il commence comme ça, en disant « Combien serez-vous déjà de gens à table ?» Ben, nous serons 8 ou 10, mais il ne faut prendre que 8. Hein, parce que comme ça, il y a bien à manger pour 10. Ouais. Et ensuite, il enchaîne donc ce fameux Maître Jacques en disant « Il faudra 4 grands potages et 5 assiettes d'entrée. » Alors potage bisque, potage de perdrix au chou vert, potage de santé, potage de canard au navet, entrée fricassée de poulet, tourte de pigeonneau, riz de veau, boudin blanc et morille. Les champignons dont on parlait tout à l'heure. Et puis ensuite, Harpagon, que diable, voilà, pour traiter toute une ville entière. Et l'autre continue, Rho. Alors, le Rho, en l'occurrence, ce n'est pas...
Non, c'est pas le rototo, c'est le rôti.
Exactement, tout à fait. Et donc, qui est servi généralement tout de suite après potage et entrée. Donc, Rho, dans un grandissime bassin. Donc là, je rejoins effectivement Valérie sur l'idée de la table pantagruélique.
Et généreuse.
Donc, en pyramide, une grande longe de veau de rivière, 3 faisans, 3 poulards de grâce, 12 pigeons de volière, 12 poulets de grain, 6 lapins de garenne, 2 douzaines de cailles et 3 douzaines d'ortolans. Entremets, et alors là il arrête tout. Harpagon, c'est pas possible, quoi. Il est sur le point de mourir.
Ça l'inquiète, il va mourir.
Ah bah ouais,
déjà, il mangera pas parce qu'il va peut-être baisser même à 7 plutôt que 8 s'il pouvait. Vrai que la varie est terrible. C'est une pièce qui vous avait marqué, Yves Courdebord, je crois, la varie.
Moi, j'ai fait des études de cuisine très tôt, donc j'ai les 2 autres études, je les ai un peu zappées. Et quand on m'a forcé à lire ça à l'époque, j'étais pas très intéressé pour vous dire la vérité, mais j'ai eu la chance de voir le film avec Louis de Funès, et là ça a été une révélation.
C'est vrai qu'il s'est régalé.
Du coup, je me suis mis à aimer Molière, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'était des paradoxes, parce que bon, quand vous dites qu'ils étaient en avance, je ne sais pas s'ils étaient en avance quand j'entends la quantité de protéines animales qui est servie.
Qu'est-ce que c'était le veau de rivière ?
Veau de rivière, je pense que ça devait ressembler un peu à nos veaux de lait de maintenant.
D'accord,
c'était des veaux qui ne devaient pas, pas brouter, quoi, pas toucher, simplement boire le lait de la mer sans aller prendre d'autres aliments.
Alors je crois que c'est les côtes qui sont très, très larges et qui étaient amenées à être rôties et braisées.
C'est voilà. Ça. Ah,
d'où
l'euro. D'où
l'euro.
Aussi. On revient au rôt toujours, Charlotte.
Et Valérie, est-ce que vous saviez si Molière cuisinait lui-même ou ce qu'il mangeait ? Parce qu'à la cour du roi, à l'époque, il y avait quand même la quintinie. Je crois qu'il a poussé beaucoup dans son potager la culture de certains fruits, certains légumes.
Bien sûr.
De temps en temps, il
n'y
a pas du
pois.
Tout de saison. Il y avait de la rhubarbe à n'importe quel moment de l'année. Et vous savez si, du coup, il y avait un peu n'importe quoi sur les tables ou comment, qu'est-ce qu'il mangeait ?
Alors, Molière est bien né, donc il a déjà eu de la chance parce qu'en étant bien né, il avait, par sa famille, les moyens de bien manger. Mais ce qui est intéressant dans son œuvre et par là même dans sa vie, c'est qu'il avait un regard sur le milieu paysan qui mangeait à même la gamelle, autour d'une grande table avec des bancs. Et à contrario, il était un des rares à être invité à la table de Louis XIV, où là, on avait des fauteuils pour marquer l'individualité. Et c'est au XVIIe qu'on a eu la chance de découvrir tous les mets, les ingrédients tels que le café, le chocolat, les fruits exotiques, etc.
Mais c'est vrai que, pardon, à défaut des auteurs du XIXe, comme les Balzac, les Hugo et tout ça, où on a un nombre d'écrits absolument hallucinants de tout ce qu'ils pouvaient manger et cuisiner, là, Molière, en fait, on est assez pauvre par rapport à ça. On a uniquement que ce qu'il a pu dire et écrire dans ses pièces, mais ce que lui-même a pu effectivement manger, finalement, on ne sait pas. Quoi.
Ouais. Ah, encore un petit extrait de la VAR, tiens, Jérôme Pouli.
C'est par rapport à l'exotisme des mets,
des fruits exotiques, effectivement.
Ça, c'est super intéressant.
Parce qu'on parlait de la Quintinie, le jardinier du roi qui faisait pousser de tout le temps, effectivement. Oui. Louis XIV voulait des asperges en permanence, par exemple. Il avait installé un système de fumier qui permettait de réchauffer la terre. Et pareil, les fruits exotiques sont arrivés à la table de Louis XIV.
Voilà. Et il y a son fils, à un moment donné,
qui dit... Et dans la VAR, il en est question.
Voilà, tout à fait. Il y a son fils qui dit à son père... pour accueillir effectivement cette fameuse Marianne dont ils sont tous les deux épris. Il lui dit « Mais j'ai pourvu mon père et j'ai fait apporter ici quelques bassins d'oranges de la Chine, de citron doux et de confiture. » Alors, confitures qui ne sont pas nos confitures actuelles,
oui, c'est pas les mêmes,
mais
non.
Des espèces de pâtes de fruits ou
fruits confits.
Voilà, oui, exactement, oui. Cherchez le mot, que j'ai envoyé quérir de votre part. En plus, il lui met ça sur sa note, quoi.
Il va s'étrangler encore une fois.
C'est clair.
Mais c'est vrai que c'est amusant de regarder par le biais de la table et de la gastronomie ce que veut dire l'époque aussi. Et à l'époque, justement, à la cour du roi, quand Molière montait des spectacles, on mangeait pendant le spectacle pendant l'entracte aussi, Charlotte.
Oui. C'est, la scène est simple, hein, c'était tout éclairé à la bougie déjà, donc c'était rare étaient les gens qui étaient assis, c'était debout, et puis ça pouvait durer, ça durait pas une heure et demie un spectacle, hein, ça durait peut-être parfois toute une journée, donc les gens mangeaient durant les représentations à la cour du roi, et puis parfois c'était du lourd, hein, c'était des coquillages, des huîtres, je crois.
Du
il y avait des pillons, du poulet, je crois qu'on a retrouvé dans les fouilles, on a retrouvé des choses comme ça. Ouais.
Ouais. Mais bon, il paraît que Louis XIV... À sa mort, on a dû faire une espèce d'autopsie. On s'est rendu compte qu'il avait les entrailles deux fois plus longues que tout le monde.
C'est vrai.
Donc ça doit expliquer aussi le fait qu'il
faisait
beaucoup.
Tiens, à propos de Louis XIV, c'est la saison des petits pois. Il avait un trou dans la cloison nasale et quand il mangeait des petits pois, parce qu'il adorait les petits pois, il ressortait des petits pois par le nez. Et quand on déjeunait ou dînait face à Louis XIV, il y avait une farandole de petits pois.
L'ancêtre
c'est pas une blague, non. C'est vrai, non. C'est pas une blague.
C'était l'ancêtre de la sarbacane. S'il y en a un qui l'a.
Exact. Vous avez raison, Jérôme Pouli, c'est la sarbacane nasale, exactement.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus à la table de Molière, hein, si vous nous retrouvez en compagnie de l'auteur et journaliste culinaire Valérie Duclos, qui a sorti un livre qui s'appelle « À la table de Molière » et le comédien Jérôme Pouli de la Comédie française. Alors Valérie, tiens, dans les pièces de Molière, quand il est question de cuisine, il est aussi question de médecine.
Absolument. En fait, médecin malgré lui, comme il n'est pas vraiment médecin, pour le coup, il imagine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je disais précédemment, quand on parle d'alicament, c'est chercher des ingrédients dans la cuisine pour essayer de soigner les maux.
C'est ça,
du
les
moment.
Alicaments, ce sont les ingrédients auxquels on prête des vertus thérapeutiques et qui nous font du bien, oui.
Et à l'époque, on découvre le café au XVIIe, et le café, entre autres, est un ingrédient pour soigner plein de maux. De l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui on fait encore, mais oui, en effet, on se sert d'ingrédients de la cuisine pour essayer de soigner.
Alors c'est souvent tourné en dérision hein, chez Molière, la médecine, on sait qu'il n'aimait pas les médecins, il en avait peur, il avait une opinion bien tranchée sur les médecins, Jérôme Pouli. Vous pensez bien qu'on a la chance de vous avoir au studio Coluche aujourd'hui à la table des bons vivants, donc on va vous demander de nous faire un petit extrait, tiens, s'il vous plaît Jérôme, du médecin malgré lui, où il est question de ce genre d'opinion.
Tout à fait, avec Toinette qui se fait en fait passer pour un faux médecin,
c'est
évidemment,
ça.
Et donc il va démonter un petit peu tout ce que les médecins ont on peut prescrire à Argan jusqu'à maintenant. Toinette pose la question à Argan en lui disant « Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture ?» Alors, Argan répond « Il m'ordonne du potage, ignorant. De la volaille, ignorant. Du veau, ignorant. Des bouillons, ignorant. Des œufs frais, ignorant. Et le soir, de petits pruneaux pour lâcher le ventre. ignorant. Et surtout, de boire mon vin fort trempé. Alors, ignorantus, ignoranta, ignorantum, il faut boire votre vin pur et pour épaissir votre sang, qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages de Hollande, du gros et du riz et des marrons et des oublis pour coller et conglutiner. Voilà.
Conglutiner, c'est vrai qu'on le dit plus beaucoup ça. Hein.
Non, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai du mal à.
C'est bon, on peut fourcher sur conglutiner.
Elle a une sacrée recommandation, Toinette. Hein.
Ouais, mais je pense qu'elle a pas tort. Alors, ceci dit, c'est marrant parce que Harpagon dit lui-même la même chose à un moment donné à Maître Jacques en lui disant mais non, il faut des pâtés bien garnis de marrons, mais là, c'est plus pour l'idée de. On mange lourd et donc peu.
Et on est calé. Alors, tiens, c'est justement, vous allez me faire ma transition, parce que c'est vrai que Molière, Valérie Duclos, est un partisan de la modération en cuisine. À travers ce qu'on vient d'entendre, il fait un petit peu aussi l'éloge de la frugalité.
La frugalité, mais l'extrait qui vient d'être lu est intéressant parce que tout ce qui est évoqué fait partie de la table paysanne parce que ces gens-là travaillent la terre et qu'ils sont en plein air, contrairement aux autres qui ne font pas grand-chose à la cour du roi ou ailleurs et donc qui n'ont pas besoin de manger les mêmes quantités et les mêmes produits. Vous parliez tout à l'heure de petits pois, d'asperges. Ce sont des mets raffinés de l'époque. Et encore une fois, Molière s'en amuse entre ces deux extrêmes de la société.
Et oui, puis on vient du Moyen-Âge où tout ce qui poussait sous terre était pour les pauvres, pour les paysans, pour le peuple. Et tout ce qui était le plus proche des voies célestes et qui poussait en haut des arbres et des arbustes était pour la noblesse.
Absolument.
Jérôme Pouli, vous disiez il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Enfin, c'est
oui,
pas vous,
non.
C'était justement Molière.
Enfin, d'ailleurs, c'est pas Molière.
Bah, ouais,
en fait,
non,
Molière, lui, il y a, voilà. Enfin, ou même peut-être
parce qu'il,
Socrate.
Cet éloge de la frugalité, qu'il fallait bien manger, mais avec modération.
Et exactement.
C'est dans l'Avare qu'on retrouve cette phrase, hein,
ouais,
justement.
Oui, ouais, tout à fait. Ouais, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger.
Bon. Et on n'est pas loin d'Épicure. Vous parliez d'Épicure, Charlotte, mais c'est vrai qu'on rejoint,
c'est ça.
On rejoint ces...
Oui, oui, on a des fausses croyances sur Épicure. On est épicurien quand on aime manger, mais Épicure, c'était plutôt avec frugalité, oui.
Alors Jérôme Pouli,
oui.
Molière
au
s'amuse,
hasard.
Au hasard, vous, puisque vous êtes là de la Comédie française, Molière s'amuse avec les mots, mais aussi avec les mets. On le disait tout à l'heure qu'il avait vu les cuisines du roi, ça l'a inspiré dans ses œuvres, et il en est question dans les femmes savantes, hein, il me semble.
Non mais ce que je trouve absolument génial chez Molière, c'est que là, pour le coup, il allie les deux, c'est-à-dire le poète et la gastronomie. Le cuisinier, en fait, ne font qu'un. C'est-à-dire que le cuisinier et le poète, finalement, régalent de la même manière, à savoir l'un par le ventre, effectivement, par la bouche, et l'autre par l'intellect. Et ça, c'est génial parce que, par exemple, effectivement, dans Les Femmes Savantes, il fait dire à Trissotin, suite à Philaminte qui lui demande comme ça, servez-vous promptement votre aimable repas. Et donc, il va le faire par les mots, en lui disant, par une espèce de métaphore, « Pour cette grande faim qu'à mes yeux on expose, un plat seul de 8 verres me semble peu de chose. » Et je pense qu'ici, je ne ferais pas mal de joindre à l'épigramme, dont on parlera peut-être tout à
absolument.
L'heure, ou bien au madrigal, le ragoût d'un sonnet qui, chez une princesse, a passé pour avoir quelques délicatesses. Il est de sel attique assaisonné partout et vous le trouverez, je crois, d'assez bon goût.
C'est beau,
c'est
voilà.
Formidable.
Les mets et les mots, comme vous dites, voilà, il nous nourrit effectivement de poésie et de mets. Alors vous parliez de l'épigramme, on en parle souvent ici de l'épigramme. C'est un morceau bon marché de l'agneau qui est dans le prolongement des poitrines. Tiens, il fait beau, là on peut faire des barbecues. C'est un morceau excellent à faire griller au barbecue. Mais c'était d'abord, Jérôme Pouli, une forme de poème. C'est parti d'un malentendu, cette histoire.
C'est un poème satirique à la base, qui manque pas de piquant. D'ailleurs, l'un des plus beaux épigrammes, certainement, vient de Voltaire, qui dit « L'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent piqua Jean Fréron. Que croyez-vous qu'il arriva ? Ce fut le serpent qui mourra. » Voilà, donc ça fait partie de l'épigramme. Et alors moi, j'ai une très belle histoire par rapport à ça. C'est qu'un jour, je vais chez mon boucher et je vois ce morceau-là, où il y avait marqué épigramme, assaisonné comme ça, avec des petites échalotes.
Mariné.
Voilà, mariné, exactement. Merci Yves. Et là, un bonheur, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est ? Je ne connaissais pas du tout. Et il me dit, ah ben c'est un épigramme. Enfin, normalement, on dit une épigramme, d'ailleurs.
Oui, exact, oui.
Et là, mon boucher poète et littérateur se met à m'expliquer l'histoire. Et donc, je me suis permis de la faire en petite note pour
ça nous intéresse parce qu'il y a une origine poétique.
Exactement. Alors donc, en l'occurrence, ça se passe au 19e. Une jeune marquise qui recevait chez elle une nombreuse compagnie d'officiers lui racontèrent qu'ils avaient dîné la veille chez le comte et de je ne sais plus qui, et qu'il les avait en outre régalés d'excellents épigrammes. Alors là-dessus, la marquise appelle son cuisinier et lui demande devant tout son monde qu'il lui faut pour demain au dîner un plat d'épigrammes. Là, le pauvre cuisinier qui n'avait jamais entendu parler de ce plat dans les annales de la cuisine fait des recherches, s'informe. La journée se passa, ainsi que la nuit, et ce ne fut que le matin qu'il trouva la solution en se rappelant qu'il avait des côtelettes d'agneau à servir au dîner. Alors là, il braisa les morceaux de poitrine et le problème fut résolu. Au dîner, évidemment, se trouvait une partie des officiers de la veille. Le cuisinier, en présentant les mets aux convives, qui lui demandait ce qu'il servait, répondit avec un sang-froid implacable, « Épigramme d'agneau à la Michelet ». Alors évidemment, tout le monde rit du quiproquo, et voilà comment une charmante marquise, alliée d'un cuisinier habile, se sont fait tous deux les inventeurs d'un mets nouveau. Mais peut-être pas tant inventeur que cela, parce que pour la première fois, une recette d'épigramme est apparue dans le livre du cuisinier François, de Monsieur de Varennes, en 1665, et qui était un jarret de veau qui, cependant, n'avait rien à voir avec la recette d'agneau qu'on connaît aujourd'hui.
Magnifique, voilà. Belle histoire et très bien racontée par Jérôme Pouli de la Comédie Française. On peut aller vous voir et vous applaudir dans l'Avare. Et puis, vous êtes en tournée avec votre pièce La cuisine des auteurs.
Ah, j'adore.
Ah, on en a parlé. Alors, c'est génial parce qu'il part sur les routes avec un food truck et il fait à manger spectacle.
C'est une caravane que j'ai transformée en cuisine.
C'est ça ?
Et je cuisine uniquement que les produits locaux dans la région dans laquelle je me trouve. Et en parlant à travers la la littérature et les grands auteurs de la gastronomie.
Et ben vous serez le 7 mai au Broc dans les Alpes-Maritimes, le 21 mai à Pauillac, ben l'agneau de Pauillac, tiens, ben voilà. Il faudra prendre de l'épigramme là-bas, le 22 mai au Porges en Gironde et à Grignoles le 31 mai en Dordogne.
Exactement. Mais... Et puis très exceptionnellement à Paris, à la Monnaie de Paris.
À la Monnaie de Paris, 24 et 25 juin.
Exactement, voire peut-être 26 si jamais.
Prolongation.
Voilà. Hein, mais vous êtes les bienvenus.
Ben on viendra avec l'épigramme.
Voilà.
Ouais. Ah ben, on va venir vous voir, vraiment.
N'hésitez pas.
Merci d'être venu à la table des bons vivants, Jérôme Pouli.
Merci.
Merci Valérie Duclos.
Merci,
donc,
merci.
On prolonge le plaisir de la table avec vous et Molière dans votre livre paru aux éditions de La Falaise. À table avec Molière.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invitée. Elle représente la France à l'étranger et dans nos régions. Et élue parmi de nombreuses prétendantes au titre de Miss France, elle grandit à Paris avant de faire des études de commerce international. Elle aime bien manger. Eh bien, ça tombe bien. Miss France est avec nous, Diane Lair, pour les intimes. Bonjour Diane.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là.
Bah, merci à vous de m'accueillir.
Faut que je vous appelle comment, Madame Miss ou Diane ?
Oh, mais Diane, c'est très bien.
Merci d'être là. Comment ça va alors ?
Bah, ça va super bien, en pleine forme.
Parce qu'on sait que vous avez un emploi du temps et un planning très très chargé.
Oui, c'est vrai. Mais là, ça faisait quelques temps que je n'étais pas revenue dans les médias, donc je suis extrêmement ravie d'être à vos côtés.
Eh bien, nous aussi, on est contents de vous accueillir. Vous étiez Miss Île-de-France et le 11 décembre dernier, vous avez été élue Miss France 2022 devant plus de 7 millions de spectateurs. Quel effet ça fait alors ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Qu'est-ce qu'on se dit
quand on entend
son nom ? Ouais.
Bizarrement, moi, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Parce qu'en fait, déjà on entend son nom, mais on ne réalise pas tout de suite, hein, forcément. Ma première réaction, ça a été de me retourner vers ma meilleure amie d'aventure, Midi-Pyrénées. Quand j'ai vu qu'elle pleurait, j'ai compris que j'étais Miss France. Et puis ensuite, il y a eu un aspect assez robotique de se dire « il faut y aller ». Parce qu'on nous attend au micro et les gens veulent voir Miss France aller sur la scène. Donc là, je suis rentrée dans le rôle directement en disant « maintenant t'es Miss France, il faut y aller ». J'ai réalisé qu'en rentrant à l'hôtel le soir, quand j'ai ouvert mon téléphone et que j'ai vu les vidéos de réaction de mes parents et de mes proches, et là j'ai dit « ah oui ». Okay,
et de voir votre compte Instagram qui a explosé.
Oui, aussi.
Hein.
C'est vrai.
Quel est le rôle de Miss France alors ? Vous dites, ça y est, il fallait que je rentre dans le rôle de Miss France. C'est quoi votre rôle ?
Aujourd'hui, c'est de représenter les femmes en général, sous toutes leurs formes, et de pouvoir avoir un beau message pour nos jeunes. Je pense que c'est hyper important en ces temps où les réseaux sociaux prennent autant d'importance et qu'il n'y a pas que du bon. Je pense que c'est extrêmement important que Miss France prône des belles valeurs pour nos jeunes.
Il y avait Alexia Laroche-Joubert, la productrice de Miss France, qui était ici il y a 15 jours.
Ma présidente.
Votre présidente, exactement. Et on parlait aussi des polémiques qui sont nées, qui découlent de Miss France, parce que les féministes ne voient pas ce concours d'un bon oeil. Vous en pensez quoi de toutes ces polémiques qu'il peut y avoir autour du concours ?
Je pense que j'ai trouvé ça dommage qu'on me parle autant de ça au moment où j'ai été élue, parce que je pense que ce qui était intéressant réellement, c'était de savoir qui j'étais. Et j'ai trouvé que les questions étaient très tendues là-dessus. Je pense que ça a été dommage sur mon début titre. En tout cas, moi, ça m'a peinée. Après, encore une fois, moi, je respecte la vie de tout le monde. Chacun sa définition du féminisme. Maintenant, moi, je l'ai toujours dit, je suis Miss France et féministe. Et ma définition à moi, c'est d'être actrice de ma vie, de faire mes propres choix, d'aller au bout de mes rêves. Et Miss France en faisait partie. Donc je ne vois pas en quoi je ne suis pas féministe et je pense qu'on pourrait batailler ensemble plutôt que les uns contre les autres.
Et quand on vous demande de vous définir, vous dites « je suis nature-peinture ».
C'est vrai.
Qu'est-ce que ça veut dire quoi ça ?
Mais alors, j'étais surprise que les gens ne connaissent pas cette expression parce que pour moi c'était vraiment une expression connue.
Vous connaissez Charlotte ?
Non.
Non,
non.
Être nature-peinture, c'est être vrai quoi. Moi je suis quelqu'un de spontané, je ne réfléchis pas à ce que je dis, ça sort tout seul.
Oui, on voit, on entend.
Peinture, ce n'est pas quelque chose de vrai.
Ouais, mais nature peinture, il y a quelque chose. Je suis comme ça, ça se fait.
Spontané.
Ce que vous voyez, c'est vrai, ça sort tout seul.
Le trait du peintre.
D'accord.
On sait que vous aimez bien manger, que vous êtes une bonne vivante, Diane Lair.
Laurent, c'est totalement indispensable pour être Miss France. Vois pas l'intérêt de Miss France.
Mais alors,
c'est vrai. Surtout, je suis carrément d'accord.
Surtout qu'elle sillonne les régions, Diane. Quel est votre goût de la semaine, Diane?
Alors, cette semaine, c'était hier soir, j'ai mangé un brie à la truffe et je l'ai encore en bouche tellement c'était bon, ça faisait du bien de remanger un bon morceau de fromage.
Le bon gras qui emprisonne l'arôme de la truffe, ça c'est vrai que ça marche bien.
C'est le combo gagnant.
Vous avez beaucoup d'obligations depuis votre élection, est-ce que vous avez le temps de cuisiner quand même malgré tout?
C'est difficile, je le concède, c'est un peu compliqué, je mange souvent sous le pouce, mais heureusement qu'on a des applications pour pouvoir se faire livrer à manger et que du coup je peux goûter plein de choses différentes, mais j'essaie de cuisiner de temps en temps, mais c'est plutôt quand je passe chez mes parents parce que j'ai la chance qu'ils soient aussi en région parisienne. Et là, je passe un petit peu en cuisine avec mon papa.
Alors, quand on est Miss France, on parlera de votre papa tiens, tout à l'heure parce qu'il cuisine bien. Oui. Quand on est Miss France, on se balade dans toute la France. Est-ce qu'il y a des spécialités régionales qui vous ont plus marqué que d'autres, tiens?
Ah, il y en a une qui m'a vachement marqué. C'était la crêpe saucisse. Ça m'a extrêmement surprise.
La galette
saucisse,
en Bretagne.
Ça. Mais ouais. J'étais hyper surprise parce qu'on arrive là-bas et ils me disent « Vous voulez goûter une galette saucisse ?» Donc, évidemment. Et en fait, c'est juste une galette et une saucisse.
Oui.
Et moi, je m'attendais à une sauce. C'est une galette et une saucisse. J'étais hyper surprise. C'était très bon, hein, mais j'étais très surprise de la recette.
Ah, mais c'est une galette de sarrasin.
Oui, c'est ça, voilà. Absolument. Ouais. Ce qu'on appelle
mais c'est une galette
mémoire.
Et une saucisse, quoi.
Mais c'est vrai que c'est souvent les choses les plus simples. C'est vrai que là, il n'y a pratiquement que deux saveurs, c'est sarrasin et saucisse. Et
mais ça fonctionne.
Marche,
ça
fonctionne. Voilà. Et c'est plaisant parce qu'il y a le croquant, il y a le moelleux, il y a le goût.
Le bon gras, la saucisse, le juteux qui répond au sarrasin.
Il y a le principal qu'il doit y avoir dans une émotion du goût.
Mais nous sommes d'accord.
Je suis d'accord.
Et bien, on continue à voyager avec vous, tiens, Charlotte. Vous nous emmenez dans le Nord.
Ah oui.
Et on va célébrer cette cuisine chaleureuse parce que moi, j'ai la chance d'y aller régulièrement dans le Nord-Pas-de-Calais.
Ouais.
Il y a une belle cuisine et puis les gens du Nord, comme on dit, ont vraiment dans le cœur et dans les fourneaux une belle chaleur.
Effectivement, oui. Et puis, vous le savez, après le confinement, il y a certains chefs qui ont ressenti l'appel de la nature et l'envie de cuisiner enfin plus local. Il se passe donc des belles choses dans les territoires, comme on les appelle maintenant. Et le festival Omnivore, qui accompagne les chefs depuis plus de 15 ans, l'a compris aussi. Et il s'installe ce week-end, là, aujourd'hui, actuellement, au Touquet, pour 3 jours de cuisines ouvertes, de découvertes des producteurs et de dégustations made in le Nord.
C'est un choix fort hein, pour Omnivore, qui est festival des chefs. Hein.
Oui, on pensait évidemment, on pourrait dire qu'il aurait été plus facile d'emmener les gens en Provence goûter les produits gorgés de soleil, que le territoire des Hauts-de-France est a priori exigeant. Certains diraient même austère, on revient trop vite, souvent à ces aspects folkloriques, hein, les chicots en gratin, le waterzoy, les gaufres. Et pourtant, c'est là, comme vous le dites, qu'on trouve des gens formidables et accueillants et les plus beaux efforts de création culinaire avec des chefs qui dépassent ces contraintes pour sublimer ce terroir. Romain Rimbaud, le directeur du festival, revendique ce choix à contre-courant parce que c'est aussi un retour aux sources pour eux.
Oui, parce que je me souviens, moi j'y étais, c'est là que le festival a démarré en 2006 et c'était au Havre.
Ouais. Exactement, et donc il retrouve aussi sa première...
C'est pas tout à fait à côté du Pas-de-Calais,
c'est
hein,
pas
mais
exactement
voilà,
la même,
Normandie.
Mais c'est pas loin. Et il retrouve donc le festival, ses premières amours, avec notamment donc, deux chefs emblématiques. Alexandre Gauthier, chef de la Grenouillère, du Froguise, d'Anecdote à la Madeleine sous Montreuil. D'ailleurs, je crois, Laurent, que vous avez un reportage dans votre magazine
qui
sort la semaine prochaine.
C'est sympa, oui, dans le numéro 4 qui sort bientôt, effectivement,
exactement.
La semaine prochaine, nous emmène dans le Nord-Pas-de-Calais.
Voilà, et donc on retrouvera Alexandre Gauthier et peut-être aussi, alors on peut parler de Florent Laden qui sera là aussi au Festival Omnivore Nord. C'est le chef de l'Auberge du Vermont, du Bierwick, du Blumpot à Lille. Deux chefs inspirés, engagés, qui font comprendre à force de caractère et chacun à leur manière qu'on peut cuisiner avec ce qu'on a sous la main en sublimant les produits du terroir local et en toujours en prouvant sa propre expression à soi quand même.
Et ils ne sont pas les seuls à défendre ce terroir d'ailleurs. Hein.
Non, ils ont été des modèles pour plein d'autres chefs qui se sont installés dans la région. Alors sur la scène, là, ce week-end, vous pourrez retrouver par exemple Alex Croquet, que vous avez déjà reçu, je crois.
Fantastique boulanger.
Le boulanger passionné de
le
Bassigny,
mystique du pain.
Voilà, qui travaille avec son propre levain et de l'eau osmosée. Il va très loin.
Oui, c'est de l'eau qui coule en permanence parce que quand elle est inerte, elle ne donnera pas le même levain à votre pain. Vous avez vu, il s'en passe des choses, hein, Diane Lair.
Je suis super surprise.
Et puis c'est de l'eau qui est redynamisée régulièrement avec des pierres.
Ça change tout
le pain. C'est vrai que c'est un travail d'exception.
Il y aura aussi le chef Camille Delcroix qui, lui, s'est installé à Saint-Omer et qui s'épanouit avec la pêche de la côte d'Opale. Il y aura aussi Clémence Ringard, la chef pâtissière qui envoie les super desserts du restaurant Pureté à Lille.
Et il n'y a pas que des chefs au programme.
Ah non, il n'y a pas que des chefs. Vous pouvez faire un tour aussi sur la scène artisan. On retrouvera les produits typiques de la région comme l'ail tressé et fumé d'Arleux, IGP. IGP du Nord. Le festival accueille aussi des sudistes. Il y a Glenn Vielle en l'occurrence qui sera là. Aussi 5 chefs belges venus en voisin. Et puis 700 étudiants des lycées hôteliers alentours. Il y en a beaucoup. Donc pas étonnant avec un casting pareil que la région vient d'être labellisée Région européenne de la gastronomie pour 2023.
Et voilà.
La fête se finira chez Alexandre Gauthier, encore lui, pour une grande omnivorous partie sur la place du village de la Madeleine sous Montreuil autour des plats emblématiques de la région.
Eh bien merci Charlotte Langrand. Allez dans le Nord et dégustez ce beau terroir du Nord. Vous êtes allée dans le Nord-Pas-de-Calais déjà ?
Plusieurs fois.
Avec votre titre de Miss France ?
Plusieurs fois, c'est une région qui aime beaucoup les Miss. On a de très belles Miss France qui viennent de là-bas.
Et vrai, effectivement. Ouais.
Et c'est une région qui les accueille de manière très chaleureuse. J'ai eu de très beaux accueils là-bas, franchement très surprise.
Eh bien, reste... pourquoi surprise ? Ils sont sympas les gens du Nord.
Non, mais surprise de cet accueil, parce que c'est pas ma région.
Ah oui,
bah, donc parfois on pense
oui, parce que votre région, c'est l'Île-de-France ou
c'est
votre
l'Île-de-France, je suis à domicile.
C'est ça, exactement. Mais vous avez voyagé un petit peu, vous êtes allé faire vos études du côté de Madrid.
Tout à fait. Je suis partie en Espagne pour étudier, mais je suis vite revenue là où mon cœur était, c'est-à-dire à Paris.
On fait les courses le samedi et on cuisine le dimanche, enfin un bon repas.
Alors là, on a acheté les fruits et les légumes.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants.
Et moi, je suis surtout très content que les produits français mettent ces valeurs de l'artisanat en avant.
Laurent Mariotte.
Bon samedi midi à table avec nous. Bonne cuisine si vous êtes en train de la faire. Diane Ler est notre invitée, c'est Miss France 2022. Diane, vous regardiez le concours de Miss France quand vous étiez enfant, tiens ?
Oui, oui, je regardais, mais j'ai surtout regardé l'année dernière parce que j'avais ma petite cousine qui y participait quand même.
C'est ce qui vous a donné l'idée d'y participer en fait, hein ?
C'est ce qui m'a soufflé l'idée, puis après par la suite j'ai été contactée aussi casting sauvage.
Pour il y a du casting sauvage pour Miss France, d'accord.
Tout comme les agences de mannequins, on peut être repéré et nous dire pourquoi pas ton profil pourrait être intéressant, ce que tu as envie de le faire.
Carrément, mais je crois que déjà à l'âge de 18 ans, je ne trahis pas un secret en disant que vous avez 24 ans.
Oui.
Vous êtes, alors ça c'est drôle, vous êtes la doyenne des Miss France élues.
En titre. En titre. Exactement.
Ça c'est rigolo.
Ouais. 24 ans.
24 ans. Okay.
À ce jour, c'est moi, c'est vrai.
Et à 18 ans, vous vouliez déjà vous présenter au concours, je crois.
C'est ça, j'étais en période un peu de transition parce que j'étais en fac de droit et je partais après étudier à l'étranger. Et pendant cette phase de pause où je travaillais, je me suis dit, pourquoi pas tenter une nouvelle expérience ? Mais mon père a eu l'idée extrêmement réfléchie de me dire qu'il fallait remplir un petit peu plus sa tête. Et je suis très heureuse d'avoir tenté l'expérience à 24 ans parce que je ne suis pas sûre que j'aurais eu les épaules à 18.
Bah c'est ça. Alors c'est le printemps, on est dans la saison des régimes, on les voit fleurir sur les magazines féminins. Miss France, la question qui tue et qui fâche, régime ou pas régime ?
Ah non, mais moi en fait ça me fâche qu'on mette des couvertures comme ça sur les régimes à fond. Pourquoi mettre absolument, dès que le soleil arrive, prôner cette minceur et mettre les gens mal ? On vit très bien en hiver sans parler régime, on peut très bien le faire en été aussi. Je pense que le mot régime devrait être enlevé, qu'on parle de rééquilibrage alimentaire afin d'avoir...
D'équilibre,
parce qu'un mode de vie sain doit être prôné effectivement, mais pour la santé du corps, mais qu'on mette en avant un régime afin d'entrer dans des codes qui n'existent plus aujourd'hui, ça me dérange. Donc moi j'en parle beaucoup sur les réseaux, je pense qu'il faut arrêter de parler de minceur extrême. Tous les corps sont beaux, soyez juste heureux de ce que vous mangez. Une tablette de chocolat, ça n'a jamais fait de mal à personne.
Eh ben voilà, on reprendra cet extrait, on le rediffusera régulièrement parce qu'on est à 100% d'accord avec vous.
Il faudrait le remplacer par équilibre et plaisir.
Exactement.
Surtout que les régimes, quand ils sont simplement esthétiques, on le sait, ça s'est prouvé, c'est pas nous qui le disons, ce sont les nutritionnistes. Il y a un effet yo-yo, donc on perd un petit peu de poids au début et après on regagne encore plus que ce qu'on avait perdu.
Parce qu'en fait, on crée des restrictions qui nous donnent après envie de se jeter sur la nourriture. Donc c'est des comportements compulsifs qui sont mauvais et les jeunes sont en train de mal vivre. Je vois le nombre de messages sur les réseaux que je reçois, mais c'est terrible de prôner autant la minceur extrême. Ça ne sert à rien, ça ne change rien. Une taille 34 aujourd'hui, une taille 38 ou 42 est très belle aussi, ou est plus encore.
Même 56. Hein.
Mais même 56. Mais évidemment, c'est pas une question. Comment on se sent dans son corps, c'est qu'une enveloppe le reste.
On parlait du plaisir et de l'importance de cuisiner au quotidien. Vous nous disiez que c'était un petit peu compliqué pour vous en ce moment parce que vous êtes beaucoup sur les routes. Oh. Mais votre papa cuisine bien en revanche. Hein ?
Ah, mon papa, c'est le meilleur restaurant dans lequel je suis allée.
Ah, qu'est-ce qu'il fait alors, papa ?
Mais tout. C'est ça le problème. C'est qu'il fait de tout. Alors pour le coup, chez nous, c'est pour ça que le régime n'a jamais existé parce qu'on a toujours pris plaisir à manger sa nourriture et en grande quantité. Non, il fait de tout. J'ai cette chance-là. Il est dessert, salé. Il est bon dans tout ce qu'il fait.
C'est quoi sa spécialité ?
Ah, sa spécialité.
Viande, poisson, mijoté, grillade.
Ouais, grillade, il est pas mal en été, il est très grillade, parce que c'est son côté sudiste, je pense. Il aime bien avoir ces saveurs-là, mais sinon, il est aussi très dessert, les cheesecakes, tout ça, c'est un pro.
Ah, c'est bon, un cheesecake, avec des fraises, là, c'est la saison des fraises, bon cheesecake aux fraises.
Ah, bah d'ailleurs, moi, j'ai fait l'ouverture de la saison des fraises.
Ah, vous étiez où ?
J'étais en Lorraine.
À Metz, chez moi, la fraise de Lorraine.
Ah, oui. L'ouverture de la saison de fraises en Lorraine.
Mais
elles étaient succulentes.
Laurent, là c'est du copinage.
Non, c'est pas du copinage.
Il m'a payé avant d'arriver.
C'est vrai que les premières fraises sont arrivées dans le sud, on le sait, mais on a de belles fraises de pleine terre en Lorraine. Il y en a, et la garriguette de Plougastel, alors qu'est-ce qu'on en fait en Bretagne?
Parlez pas, s'il vous plaît.
Pourquoi vous êtes.
La garriguette de Plougastel, je suis désolé, Laurent.
Non, je ne parle pas de celle de Savéole, je parle de la vraie cultivée en pleine terre. Bon, quoi ?
En quantité, c'est combien en pourcentage ? On est dans le ridicule, là, je pense.
Ah, en pleine terre ?
En pleine terre, on est dans le ridicule. Et puis la Bretagne, voilà, c'est une terre, c'est ma terre, parce que ma maman est bretonne, donc j'adore la Bretagne. Ah. Mais si vous connaissez le soleil en Bretagne...
J'ai chauffé.
Vous me le dites, quand vous allez en Bretagne, il faut être honnête, je prends mon parka et je prends mes bottes.
Il y a autant de soleil qu'en Lorraine, c'est pas bien ce que vous dites.
En tout cas, nous sommes reliés parce que ma grand-mère avait un hôtel à Plégastel.
Ah, mais je pense quand même qu'il faut être honnête, que c'est des fruits...
Du sud, oui.
Voilà, c'est les fruits du sud qui ont besoin de soleil. Plus elles sont gorgées de soleil, meilleures elles sont, plus sucrées elles sont.
Eh bien, pour mettre tout le monde d'accord, nous allons cuisiner un coquillage du sud. Un coquillage que vous aimez beaucoup, je crois, Diane Lair, c'est...
Les tellines.
Mmh. La telline, un tout petit coquillage qu'on trouve en Camargue, qu'on peut trouver aussi en Bretagne, mais c'est un peu plus tard si on était. Et pour le cuisiner, nous accueillons David Paulin, le chef du restaurant Le Bon, la Butte, perché sur les hauteurs de Montmartre. Bonjour David.
Bonjour.
Merci d'être là.
Bah, merci de m'accueillir.
Alors la fraise, elle vient d'où chez vous quand vous la cuisinez?
C'est du sud.
C'est du sud.
Moi, je suis originaire de Salon-de-Provence, à côté de Marseille. Et on a les plus belles fraises du monde, parce qu'il y a le soleil, quoi. Ce qu'on n'a pas vraiment en Bretagne toute l'année.
Et vous l'avez en haut de la butte aussi, le soleil. Vous êtes en altitude ?
Oui, on est en altitude, là, oui.
Le Bon, la Butte, c'est une très belle adresse, une belle cuisine de bistrot qui flirte avec la bistronomie chère à Yves Candebord. Alors, des tellines, ça c'est pour vous, Diane Lair. Ça vous évoque quoi, ce coquillage ? Racontez-nous. D'où vient cet amour de la telline ?
Moi, mon père est camarguais, et toute ma famille paternelle habite là-bas, et on s'amusait à les chercher dans le sable, en famille. Du coup, j'ai ce souvenir-là d'être en famille avec le pantalon relevé, à fouiller le sable pour en trouver et à faire les recettes après avec ma grand-mère. Et là, rien que sentir l'odeur, je suis une femme heureuse.
Ah oui, alors il y a de l'ail, hein, là. Hein.
Ah oui, on m'a dit Miss France aime les tellines et l'ail. Donc,
moi, vous avez tout compris.
Pareillement, quand j'étais petit, j'allais vers la Camargue, quoi. Et j'ai essayé de retrouver la recette que j'avais quand j'allais au Gros du Roi, que j'étais tout petit. Et voilà, c'est tout simple à faire. C'est simplement un petit peu de vin, un petit peu d'ail. Un peu beaucoup d'ail quand même. J'ai rajouté un petit peu d'ail des ours en plus.
Racontez-nous. On met les tellines dans une casserole, dans une poêle.
Voilà,
on fait
Voilà. Simplement, on fait revenir un petit peu de beurre au départ avec un petit peu d'huile d'olive, de l'ail qu'on a légèrement bien. Qu'on a mis en. Comment ça s'appelle ?
Haché.
Qu'on a haché. Ouais. Voilà. Vous rajoutez les tellines, on déglace un petit peu avec du vin blanc, on laisse cuire quelques minutes, pas énormément, sinon les coquillages vont se détacher. Et voilà.
À couvert pas à couvert ?
Moi, j'ai couvert un petit peu
Un petit peu, pour que ça s'ouvre rapidement.
Oui, que ça s'ouvre un petit peu plus rapidement.
C'est excellent.
Vous reconnaissez un dégoût de votre enfance, alors, Diane Lair ?
Là, je me revois dans la maison de ma grand-mère.
C'est vrai que c'est bon parce qu'il y a effectivement, c'est petit la telline.
C'est tout petit.
C'est entre la coque et la palourde, mais en mini quoi.
C'est super pour l'apéro ça, c'est très bien de faire ça, c'est peu exploité, les gens y pensent pas souvent, mais c'est très très bon à l'apéro.
J'en ai acheté l'autre jour parce que c'est la pleine saison et elles viennent effectivement du côté de la Camargue en ce moment. Et je me suis amusé à vouloir les faire un peu à la vongolée. Je me suis amusé parce que j'ai voulu les décoquiller. Il y a du boulot quand tu décoquilles. C'est plus sympa comme ça quoi.
Faut savoir qu'on en trouve aussi en Bretagne sur les côtes.
Celles-ci, elles viennent de Plougastel.
Alors, on les appelle pas des tellines en Bretagne. C'est des lavagnons en Bretagne.
Ah oui, exact.
Ouais. Alors moi, je vais être critique. Mes critiques, c'est toujours ma critique personnelle. Et c'est vrai que c'est la façon la plus classique de manger ce coquillage, c'est avec l'ail. Oui. Mais je trouve que ça arrive à dénaturer ce produit.
On sent trop l'ail, vous voulez dire
l'ail, oui.
C'est comme quand on met de l'ail avec les cèpes, par exemple.
Je trouve que c'est un produit qui est d'une telle qualité, et surtout d'une telle finesse, avec ce iodé. Alors quand je les cuisine, je préfère rester sur le iode plutôt qu'y mettre l'ail.
Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Mais bon, là c'était... j'ai recherché une Madeleine de Proust quand j'étais gosse. Et moi, c'est ces souvenirs-là. On allait vers Port-Camargue quand on était petit. Il y avait ça. J'en achetais en barquette. J'en étais fan quand j'avais 6-7 ans.
Mais vous avez raison, David Paulin. Les Madeleines de Proust, les goûts de nos enfants, ce ne sont pas forcément académiques en termes de cuisine et de gastronomie. Un petit mot pour dresser le portrait de David qu'on peut retrouver sur la butte Montmartre,
Charlotte. Mais oui, parce que vous n'avez pas toujours été chef, c'est une reconversion absolument réussie. Mais avant, vous étiez ingénieur son.
Tout à fait.
Pendant 7 à 8 ans à Envoyé Spécial. Puis ensuite, vous avez mis votre micro dans les cocottes pour les escapades de Jean-Luc Petit-Renaud et les carnets de Julie.
Qu'on embrasse et qui fait partie de la bande. Oui. Et on l'embrasse, Jean-Luc.
Et les carnets de Julie. Et puis, vous avez fait beaucoup de voyages. Vous vouliez toujours manger local, connaître la cuisine du pays. Et du coup, vous avez ouvert un premier bar à tapas, si je ne me
trompe
pas.
Oui, voilà, exactement.
Et maintenant, vous avez repris donc Le Bon, la Brute, il y a presque... Pardon.
Oui, il y a 4 ans et demi
sur les hauteurs de Montmartre.
Exactement. Exactement.
Et on peut aller y déguster des tellines. Un mot, tiens, pour nos auditeurs qui voudraient refaire cette recette ce week-end. Il faut les désabler parce que le sable est l'ennemi de la telline, hein, comme la coque.
Exactement. Ouais. Là, je les ai reçus hier soir. Voilà, parce que c'est pas des. Je les ai pas en ce moment à la carte, donc elles ont encore un tout petit peu de ça, mais il faut vraiment les faire dessaler. Moi, je préconise à peu près 10-12 heures dans une eau très très froide avec du sel. Ouais. Et le sel, on part sur une base de 30 grammes par litre parce qu'on recherche la salinité de l'eau de mer. Voilà. Donc c'est 30-35 grammes par litre.
Et après, je pense qu'il y a vraiment un conseil, mais ça c'est pour l'ensemble de tous les coquillages, c'est une cuisson vraiment très très courte. Voilà. Ouais. Parce que si on les cuit trop, elles vont sécher, elles vont perdre justement cet arôme qui est tellement particulier de l'iode. C'est des cuissons très courtes. Et à la limite, quand vous les faites dans une poêle ou une casserole, il faudrait presque les enlever à fur et à mesure, dès qu'elles s'ouvrent, les retirer. Les laisser s'ouvrir, mais les retirer très rapidement pour garder justement toute cette humidité, toute cette saveur.
Et on ne s'est pas gouré, vous avez vu comme ça plaît à Miss France un petit peu. Ça fait plaisir de vous avoir à table, hein. Vous ne faites pas semblant, Diane Lair.
Ah bah moi, mieux vaut m'avoir par téléphone qu'à table.
elle aura fini avant nous. Un mot sur un autre coquillage que vous cuisinez aussi et que vous servez à la carte dans votre restaurant Le Bon, la Butte à Montmartre, David. Ce sont les couteaux. Alors on en parle régulièrement aussi, c'est pareil, c'est un coquillage accessible.
C'est un coquillage que j'adore et que j'ai toujours à la carte. Ouais. J'ai essayé une fois de l'enlever de ma carte et je me suis fait engueuler par mes clients. Donc, depuis...
Ils sont fondants, ils ne sont pas caoutchouteux, parce que le piège avec le couteau, c'est que ça soit caoutchouteux.
C'est pareil, le couteau, ça se cuit très très peu. Là, on les poêle très chaude, on met le couteau avec un petit peu d'huile d'olive, et voilà, on laisse.
Bon, mais...
Et là, le meilleur moment, c'est, pour l'avoir, c'est qu'on passe du côté translucide au côté blanc. Sur le nacré, vraiment. Et moi, je rajoute une persillade à la fin. Je ne mets surtout pas à cuire avec du beurre. Enfin, avec.
Oui, il n'y a pas de beurre qui cuit.
Avec ni de l'ail, ni du beurre.
La persillade, il y a quoi dedans? Il y a du persil, hein?
Du persil, de l'ail, du beurre.
D'accord. Et vous mixez tout ça?
Moi, je mixe le persil et l'ail dans un mixeur traditionnel. Je fais presque une bouillie. Et après, je rajoute un beurre pommade. On mélange bien et voilà.
Et on les jette sur les couteaux quand ils sont ouverts.
Ce qui peut être très intéressant, on rajoute du beurre, c'est une noisette, une amande. Mm. C'est toujours très agréable. Ça marie très très bien avec la telline.
Qu'est-ce qu'on boit avec ces belles tellines? Tiens, Yves Condebord.
Il faut rester sur un vin blanc sec. Moi, j'irais sur un muscadet, l'amphibolite de Jolandron.
Ah, voilà. Beau Castille.
C'est des vins qui sont ciselés, qui sont droits, qui ont l'acidité et la rondeur suffisante pour accompagner de tels plats.
Eh ben voilà, on va parler vin avec vous tout à l'heure, tiens aussi Diane Lair. Vous aimez le vin, vous dégustez les vignerons grâce à votre titre de Miss France, tiens.
Ah ben moi j'aime les produits terroirs, donc évidemment blanc, rosé, rouge.
Et une Miss France ne peut pas dire qu'elle n'aime pas aller à la rencontre des vignerons, c'est pas possible, hein, ça. Hein.
Moi j'aime rencontrer tous les Français.
Voilà, ça c'est bien. Il y a un petit côté politique aussi, hein, quand on est Miss France aussi. Non, mais consensuel, attention, faut être dans la rondeur quand même.
Non, mais on représente tous les Français, donc on est content d'aller à leur rencontre. Et puis évidemment, quand on peut goûter leurs produits, on est d'autant plus heureux.
Et ça vous a plu alors les télés?
Ah bah c'est plus que je suis une femme conquise.
Eh bah tant mieux.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Ah c'est bon, hein, ces tellines et ces couteaux cuisinés par David Paulin du restaurant Le Bon, la Butte. On se régale avec vous, Diane Lair. Ça va, le service vous convient?
Ah, je suis plus que ravie. On est extrêmement bien accueillis chez Europe 1.
Bah, très bien. Miss France est avec nous jusqu'à midi et demi. Que représente, tiens, pour vous le titre, Diane? C'est une responsabilité? Il y a une petite charge comme ça qui pèse sur vos épaules?
Je ne dis pas qu'elle pèse, mais il y a une responsabilité, oui, parce qu'effectivement, on est... ambassadrice des femmes, parce que au quotidien il y a énormément de jeunes qui nous écoutent et qu'on sait qu'on peut avoir de l'influence sur eux, et pour moi c'est extrêmement important d'utiliser cette année-là pour passer le bon message, pour mettre en avant de belles causes et pour aussi mettre parfois des métiers féminins qui sont pas forcément mis en avant, enfin plein de choses comme ça. Et effectivement ça passe très vite un an,
Et du coup, j'ai cette responsabilité de me dire qu'il faut que j'utilise de la bonne manière.
Vous dites, c'est pas qu'un titre du strass et des paillettes. Hein. Effectivement, il y a un engagement derrière.
Évidemment, il y a une partie strass et paillettes. Et c'est ça aussi Miss France, c'est cette magie-là qu'on crée pour les enfants qui viennent nous voir. Mais à côté de ça, oui, il y a plein d'autres choses. On s'engage sur de belles causes. On va aux côtés d'associations humanitaires. C'est hyper important aussi de prôner ça. Et puis, encore une fois, de faire passer de beaux messages à travers l'image qu'on incarne.
Alors, Diane Lair, avant d'être Miss France, vous avez passé 4 ans à Madrid pour suivre des études de commerce international. C'était pour faire quoi c'est pour faire quoi, peut-être, justement? Vous avez peut-être envie de faire autre chose après Miss France?
Ah bah, de toute façon, après, à la fin, ouais. Bien faire un moment ou un autre que je renonce à cette écharpe. Mais dans le but, alors, c'était une école spécialisée en entrepreneuriat pour les entrepreneurs de demain. Donc moi, j'avais créé ensuite par ma marque d'accessoires pour sac à main. Par la suite, j'espère pouvoir créer à nouveau quelque chose, peut-être dans un domaine différent. J'y réfléchis doucement. Maintenant, c'est vrai que l'année de Miss France, c'est plein d'opportunités et de rencontres. Donc pour l'instant, je suis ouverte à tout ça parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et je me dis que, quitte à avoir tenté cette expérience, autant la vivre à fond et se laisser à d'autres opportunités.
Elle va lancer une gamme de produits régionaux, vous allez voir. Diane Lair, vous avez passé, les tellines. Vous avez passé 4 ans, je le disais, à Madrid. Vous avez dû faire de belles découvertes gastronomiques là-bas. Il y a de belles spécialités.
Ah, c'est vrai qu'on mange bien.
Qu'est-ce qui vous a plu ?
On mange gras, mais on mange bien.
Oui, c'est vrai que la cuisine espagnole est assez riche. Hein.
Oui, la cuisine espagnole, c'est vrai que c'est une cuisine très traditionnelle. Bon, on a eu les années Ferran Adrià El Bulli qui avait un peu révolutionné. Mais sinon, ça reste une cuisine de goût, certes profonde, mais relativement, comme vous l'avez dit, grasse et lourde.
Vous avez pu déguster des vins espagnols aussi, par exemple, là-bas ?
Oui, évidemment, un petit peu. Après, c'était surtout la gastronomie. C'est vrai que, on parlait tout à l'heure, mais les choses simples sont parfois les meilleures. Mais le pan con tomate, là-bas, c'est un classique qui nous fait toujours du bien quand on arrive à table. Bah,
c'est peut-être le meilleur plat espagnol.
Mais on a... il est difficile, quand même.
Nous saluons nos auditeurs espagnols. C'est un Yves Candebord de Chafouin. Vous savez pourquoi ? Parce que ça fait une semaine qu'il n'est plus en petit cochon dans Mask Singer et ça lui manque. C'est pour ça. Ça lui manque, son petit cochon.
Vous l'avez cherché.
vous l'avez cherché. On va parler de vin, tiens, avec vous, Yves, dans un instant. Le vin, c'est la France. Hein, on le dit régulièrement tous les samedis à cette table. Découvrir les vignobles, c'est une autre façon de voyager aussi. C'est quelque chose que vous avez pu faire, Diane Lair, déjà ?
Alors, je suis allée en Bourgogne, donc j'ai pu en goûter un petit peu. Mais après, non, pas encore pour l'instant. Faut pas oublier quand même que quand je suis en déplacement, c'est pour aller à la rencontre du public. Et donc, je ne me permets pas toujours ce petit verre parce qu'il faut que je reste concentrée. Mais évidemment, il y a toujours ce petit plaisir à la fin. Et j'espère qu'il y en aura d'autres durant mon année.
Vous avez des préférences côté vin ? L'Alsace, la Bourgogne, le Bordelais, la Loire ?
Peut-être la Bourgogne.
Peut-être la Bourgogne, voilà, sur des pinots noirs.
J'avoue que je ne suis pas quelqu'un de difficile. Donc voilà, si tant que ça en bonne compagnie, je suis très heureux.
Oui, vous avez raison, c'est avec qui aussi, ça compte, c'est avec qui on boit, hein, avec plaisir et avec modération. Alors on va vous emmener dans le sud-ouest, là, avec Yves, pour découvrir un vignoble, moi que j'adore, mais qui est encore assez méconnu, parce que c'est vrai que quand on parle vignoble en France, surtout il y a une vingtaine d'années, on parlait du Bordelais, on parlait de la Bourgogne et de l'Alsace, mais il y a aussi un vignoble dans le sud-ouest, Yves.
Oui, j'ai envie de dire, c'est pas que dans le sud-ouest, c'est vrai qu'il y a une vraie révolution depuis quelques années, il y a des vrais vignerons là, qui ont repris, je dirais, un peu le sens de leur terroir, qui ont compris un peu une philosophie, qui ont imposé un travail d'exception pour remettre en valeur les caractéristiques du lieu, et que ce soit en Ardèche, dans l'Aveyron, voilà, ces vignobles qu'on pouvait considérer petits vignobles, voire on était assez péjoratif vis-à-vis d'eux. Et alors là, moi, je vais vous parler d'une région en particulier, et un vigneron en particulier.
On vous écoute.
Je vais vous parler du Pays Basque. Alors, ce n'est pas tout à fait chez moi, parce que moi, je suis en Béarn. C'est nos voisins, voilà. C'est nos amis basques. Et il y a un vignoble qui est le vignoble d'Irulegui.
Ah oui, voilà. Qui a eu longtemps mauvaise réputation. On a dit, attention, c'est des torboyaux, c'est des vins âpres. Ils étaient costauds et rugueux de réputation et même de soif.
Et il faut reconnaître aussi que c'était un peu vrai. C'était un peu vrai. Et là, c'est un couple de vignerons qui se sont installés dans les années 90, Michel et Thérèse Riusperu, qui sont sur le domaine Arechea, donc vraiment à Irulegui, et qui aujourd'hui sont sur toutes les plus grandes tables de France.
Alors, il faut aller voir quand on se balade dans le vignoble là-bas, du côté de Saint-Étienne-de-Baïgorry, par exemple, dans l'arrière-pays. Ce sont des vins escarpés, hein, parce qu'il y a un beau travail de récolte de la vigne, parce que ça grimpe aussi.
Il y a un travail exceptionnel, ils sont sur des coteaux. C'est vrai que c'est un travail de labeur difficile. Là, mais ils ont réussi à mettre en place, avec leurs enfants, les deux garçons qui sont rentrés, c'est un travail qui est pratiquement fait totalement manuellement, avec un respect
de la terre, parce qu'ils travaillent de façon nature, sans entrant chimique, et aussi sans entrant chimique à la vinification. Et là, je vous ai amené un blanc, un Irulegi blanc. Alors, j'espère que je vais bien prononcer, parce que c'est en basque, c'est la cuvée Egozuri. Voilà, c'est un vin qui a été, vous allez voir, qui a des connotations très grillées, très végétal aussi à la fois.
Et presque un petit peu vin du Jura, moi ouais, je trouve.
Ouais, un peu vin du Jura. C'est vraiment un grand vin de gastronomie. Et c'est fait avec des cépages vraiment locaux. C'est du gros Mansingue, du petit Mansingue et du petit Corbu.
C'est voilà. Ça, des cépages voilà. Du coin.
Des cépages du coin. Et c'est travaillé sur une terre, sur des coteaux qui sont du schiste et du grès, qu'on peut ressentir voilà, ce côté presque un peu silex aussi du vin. Et c'est vrai qu'en haute gastronomie, quand on arrive à le déguster sur un accord, vous pouvez aussi bien faire un accord sur une viande blanche avec un riz de veau. J'ai eu la chance de le goûter chez Eric Fréchon au Bristol. Il nous avait fait un accord avec son riz de veau qui fait avec une salade de laitue et des coques. Le côté iodé, c'était un accord parfait.
Avec des morilles à la crème, je suis sûr que ça marche.
Morilles à la crème, ça marche énormément. Et parce que vous l'avez dit, ça rappelle un peu ces fameux vins du Jura.
Mais c'est vrai qu'au nez et à la dégustation, sans avoir la provenance, je ne suis pas sûr d'avoir reconnu un Irulegi, moi.
Mais c'est vrai que c'est un travail tellement particulier, tellement spécifique, qu'on peut, à la dégustation à l'aveugle, partir. Et pour finir, Laurent, alors, c'est vrai que c'est un vin qui est un peu onéreux, mais ça reste quand même très, très abordable. Pour le particulier, c'est des vins qu'on trouve entre 23 et 27 euros.
Et ben voilà.
C'est de la grande gastronomie dans un vignoble qui n'était pas connu. Et grâce à ces vignerons, on a la chance en France maintenant, sur l'ensemble du territoire, quelle que soit l'appellation, d'avoir des grands vins.
Il se passe des trucs du côté de l'Irulegi. Et j'en profite, tiens, pour saluer Elisa Duplessis d'Ostalapia, qui est une belle auberge à Aetz, juste au-dessus de Saint-Jean-de-Luz. C'est la fille de Christian Duplessis et qui a une belle connaissance de vin et qui vous fera découvrir de beaux vins d'Irulegi. Je pense au domaine Brana aussi, qui fait de très belles choses.
Qui est plus classique et très réputé sur ses eaux de vie. Mais là, le domaine Arrechia, Laurent, c'est vraiment au-dessus.
Vous nous avez convaincus, absolument. C'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants, Diane Ler. Vous êtes prête ?
Allons-y.
Ça va chauffer, attention. Hein. Quel est le goût de votre enfance, Diane ?
Le goût de mon enfance, ce sera les tellines.
Les tellines à l'ail ?
Ouais, quand même.
Hein, on y était, là.
On y était.
On y était. Mm. Votre plus grand succès en cuisine ?
Les choses simples, coquillettes, jambon, beurre.
Ah oui, c'est bon. Ça, c'est
mais
bon.
Ça, c'est vrai que c'est bon. Mais beaucoup de beurre. Hein.
Mais voilà, mais c'est le repas du dimanche qui fait du bien. Quand on a envie un peu de réconfort, on a passé une semaine compliquée.
C'est régressif.
Ça fait du bien.
Votre plus beau repas ?
Mon plus beau repas, je pense que c'était un brunch que j'ai fait quand j'ai eu ma première communion. Ma mère m'avait amené au Georges V avec toute ma famille et j'étais extrêmement surprise de l'immensité du nombre de choix de plats et ça restera gravé à vie. Je ne suis jamais retournée depuis, mais j'aime bien ce fantasme de me dire qu'il y en avait autant. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais moins surprise, mais à l'époque, ça me paraissait énorme.
C'est vrai qu'il y a un côté magique quand on est enfant sur le brunch parce qu'il y a tout le sucré et tout le salé qui cohabitent et on peut choisir ce qu'on veut et on peut y retourner. Un brunch peut durer très longtemps.
C'est souvent qu'on a le droit de commencer par le sucré.
Alors, exactement, mais oui, on casse les codes, vous avez raison. Votre pire repas ?
Moi, je n'ai pas de pire repas. Parce qu'ils sont toujours bien accompagnés.
C'est vrai ça ?
Oui.
Pas un truc mauvais. On ne vous a pas fait manger un truc mauvais là depuis que vous vous baladez dans toute la France ? Allez, balancez, ça reste entre nous.
Ouais. Non, franchement, non, parce que j'ai la chance en plus que les gens me demandent s'il y a des choses que j'aime bien. Et en général, je suis très bien accueillie. Non, on mange très bien en France.
Ah bah ça, on va pas vous dire le contraire. Oui, mais parfois on peut rater
des choses.
La meilleure
gastronomie.
Ça c'est vrai. Quel plan porteriez-vous sur une île déserte, Miss France ?
Sur une île déserte ? Oh là là, mais si je suis sur une île déserte et qu'il n'y a pas à manger, là, il faut que je prenne un truc bien gras, histoire de me réconforter. Une pizza ?
Oui.
Histoire d'eux ?
Voilà, il faudrait la laisser traîner un petit peu longtemps pour en profiter. Alors, les invités de votre dîner idéal ?
Ah, bah, on ne change pas une équipe qui gagne, je garderai mes amis et ma famille.
Quelle est votre adresse secrète, Diane Ler ?
Je ne peux pas vous la dire, c'est chez mon père.
Ah, voilà, papa qui cuisine bien.
Voilà, exactement.
Et les grillades. Et le mot de la fin, F-A-I-M ?
Eh ben moi, un dessert, ça me suffit jamais. Donc, est-ce que tu as du chocolat après le dessert ?
Ah, il faut toujours finir sur une note sucrée, vous avez raison. Et moi aussi, j'aime bien reprendre du chocolat après le dessert, vous avez
raison.
Avec
le café, ça passe toujours bien.
Vous aimez le chocolat, donc vous êtes quelqu'un de bien.
Mais évidemment.
Mais je dis toujours, il faut se méfier des gens qui ne mangent pas de chocolat.
Je suis d'accord.
On mange tous du chocolat ici à cette table.
Oui.
Il
y a peu de choses qu'on ne mange pas. Pâques n'était pas si loin, alors.
C'est ça, en plus.
On s'en rappelle encore.
Merci, Diane Ler, d'être venue à la table des bons vivants.
Bah, merci à vous de m'avoir accueillie.
C'était un plaisir de vous découvrir de l'autre côté de la fourchette. Et on a pu voir, l'assiette vide en est la preuve, que les tellines vous ont régalé. Merci Yves Candebord.
Merci à vous.
Merci Charlotte Langrand. Et on vous retrouve bien entendu demain dans le journal du dimanche. Merci à ma fine équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucie Lescourou à la rédaction en chef. Claire Dutronc à la programmation et à la rédaction avec Julien Amat, Marion Sauveur et Juliette. Et Loïc Vimard à la réalisation.